VOA Afrique, les infos à Washington.
Anastasie Tudiache avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Commençons en Guinée, où le nouveau Premier ministre, Ibrahima Kassori Fofana, a formé son gouvernement. Pas de changement majeur dans la nouvelle équipe, qui compte 33 membres. Pas de changement par rapport à celle de son prédécesseur, Mamadi Youla. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Administration du territoire restent en place. Monsieur Fofana est lui-même membre de l'équipe sortante et a été le directeur de campagne du président Alpha Condé lors de sa réélection en 2015. Deux membres de l'opposition entrent au gouvernement, respectivement Aboubacar Sylla au transport et Mamadou Mokhtar Diallo à la jeunesse et l'emploi des jeunes. Les drapeaux étaient en berne ce dimanche en Ouganda après l'accident de la route qui a tué 48 personnes selon la Croix-Rouge, 22 selon la police, dans la nuit du vendredi à samedi. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement verserait 5 millions de shillings ougandais, soit 1145 euros, à chacune des familles des victimes pour couvrir les frais des funérailles. 3 millions de shillings, soit 690 euros, seront versés à chacune des personnes grièvement blessées. En République démocratique du Congo, l'Église s'inquiète d'un possible pic de nouveaux cas de fièvre Ebola dans l'épidémie qui touche le nord-ouest du pays. Et Mgr Fridolin Ambongo s'en est ému de retour d'une visite de 3 jours dans la région de Mbandaka et Bikoro, l'épicentre de l'épidémie. Il faut craindre un pic de nouveaux cas dans les 3 semaines à venir, puisque la période d'incubation du virus va de 2 à 21 jours, a dit l'archevêque de Kinshasa et administrateur apostolique de Mbandaka Bikoro. Mgr Fridolin Ambongo a indiqué à titre de prévention que l'Église dans la région suspendait jusqu'à nouvel ordre l'administration des sacrements qui impliquent un contact physique avec les fidèles, à savoir le baptême, la confirmation, l'onction des malades. Il a aussi ajouté que les ordinations prévues pour le dimanche 3 juin seraient annulées. Au Maroc, le parti Authenticité et Modernité, le PAM, principale formation de l'opposition au gouvernement, a élu un nouveau secrétaire général, Hakim Benchamache, 55 ans. Monsieur Benchamache préside depuis 2015 la Chambre des conseillers, qui est la deuxième chambre du Parlement. Il est, comme son prédécesseur Ilyas El Omari, un ancien militant de la gauche radicale. Il se positionne fréquemment comme un rempart moderniste au PJD, le parti Justice et Développement, islamiste et première force politique du pays. Les services espagnols de sauvetage en mer ont annoncé ce dimanche avoir secouru 532 migrants ce week-end qui tentaient de traverser la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord. Et rien qu'hier samedi, ils en avaient secouru 293 qui tentaient la traversée à bord de 9 embarcations. À Londres, il sera désormais possible de donner de l'argent aux musiciens de rue par téléphone ou par carte bancaire sans contact. Une première mondiale, selon Sadiq Khan, le maire de la capitale britannique. Un système a ainsi été mis en place qui non seulement rend le paiement par carte bancaire sans contact, téléphone portable ou à carte à code possible, mais également permet à l'artiste de fixer un montant de contribution déterminé. En France, un communiqué de l'Élysée indique aujourd'hui que le président Emmanuel Macron recevra demain à déjeuner son homologue angolais Jean Lourenço en visite officielle en France. Une visite qui intervient 5 jours après celle du président rwandais et président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame. Après cet entretien, les deux présidents doivent signer un accord dont l'Élysée ne précise pas la nature avant de faire une déclaration conjointe devant la presse. Au Brésil, des manifestations de soutien à l'ancien président Lula, incarcéré depuis avril pour corruption, ont été organisées ce dimanche dans plus de 70 villes du pays pour revendiquer sa candidature à la présidentielle d'octobre, malgré sa condamnation. Lula est notre candidat, il n'y a pas de plan B. Notre défi est non seulement de faire la plus belle campagne de l'histoire de ce pays, mais de faire élire Lula au premier tour, s'est écrié un député, Paulo Pimenta. L'un des principaux rassemblements avait lieu à Curitiba, au sud du Brésil, où l'ancien président purge depuis le 7 avril une peine de 12 mois et 1 an de prison et de 12 ans et 1 mois de prison, pardonnez-moi, même s'il est en tête des intentions de vote. La loi brésilienne interdit à Lula d'être candidat en raison de sa condamnation, même si des recours sont encore possibles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Ravi de vous retrouver, chers fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Eric Manilakidza avec vous à Washington depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Nous parlons de la Tunisie et du droit de manger pendant le Ramadan en Tunisie. Des associations réaffirment le droit de ne pas jeûner pendant le Ramadan. Un collectif d'associations de défense des droits humains a appelé dans une lettre ouverte les autorités à protéger la liberté de conscience et de religion et autoriser à manger ou fumer en public durant le Ramadan. Chaque année, en vertu de textes flous sur l'outrage aux bonnes mœurs et de circulaires remontant à plusieurs dizaines d'années, des Tunisiens sont arrêtés pour avoir mangé ou fumé durant le jeûne. L'année dernière, par exemple, 5 personnes avaient été condamnées à 1 mois de prison pour avoir mangé ou fumé en public en plein mois sacré. Que pensez-vous de ce droit de manger pendant le Ramadan? C'est la question qui vous a été soumise sur votre page Facebook. Nous aurons tout à l'heure notre invité, ma collègue Kadiatou Traoré, qui doit me rejoindre au studio dans quelques instants. Nous avons un commentaire d'un auditeur, c'est Hassan Nianou qui dit « Non, ça ne nous dérange pas, mais manger hors de la vue des jeûneurs, pour ne pas les rappeler, pour ne pas influencer l'envie de manger, me paraît être correct. » C'est Hassan Nianou qui le dit. Samba Diamanka, il dit « J'ai vécu beaucoup de temps dans des pays maghrébins, mais en aussi, mais c'est impossible, personne ne peut pas essayer de manger en plein Ramadan. C'est la démocratie n'est pas encore acquise dans les pays maghrébins. C'est le point de vue de Samba Diamanka. Nous avons un auditeur en ligne, c'est Diallo. Bonsoir Diallo.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à l'ensemble des auditeurs et des auditrices de VOA Afrique et très bon début de Ramadan à toutes et à tous.
Je vous écoute, Diallo.
Merci. Bon, moi j'ai des questions à poser parce que j'aimerais que les gens comprennent quelque chose. Parce que si la Tunisie, et c'est un État islamique, c'est tout à fait normal qu'on interdit aux citoyens de manger en public. En plein jour de Ramadan, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas permettre de faire du même pourquoi pendant que les autres sont en jeûne. Parce que les autres qui n'existent pas que de manger et boire, mais quand on les laisse faire, elles vont fumer en public, prendre l'alcool en public, se comporter autrement. C'est ce qui n'est pas du tout normal. Dans un pays qui se dit musulman à 99%. Si les textes de loi aussi disent que l'État de la Tunisie est un État islamique, c'est tout à fait normal. Là, je ne condamne pas l'État tunisien. Je suis d'avis avec... je soutiens leur position. Mais si l'État aussi est laïque, maintenant, on réfère aux lois qui interdisent. Parce que les lois ont été soumises, votées par le peuple, ou bien adopté par l'Assemblée nationale, qui sont des élus du peuple. Voilà.
Mais,
les textes sont passés à l'Assemblée,
Diallo,
ou bien a été...
Diallo, mais tous les Tunisiens ne sont pas musulmans.
Ils ne sont pas tous musulmans, mais si l'État est un État islamique ou bien un État laïque, dans les articles de la Constitution, les lois de la République, il y a eu des lois qui ont été votées en interdisant cela. Qu'est-ce qu'on peut, quand la majorité opte pour une chose, pas de recours? C'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas faire aller-retour dans ce sens, parce qu'il y a eu des gens, comme vous avez signalé tout à l'heure, qui a été interpellé par le passé, qui a été visé, je pense bien, et condamné. Ils ont pris des avocats, ils ont allé devant les tribunaux défendre leur position, et les autres aussi ont défendu leur position. Les juges ont donné raison à l'État. Ils sont condamnés, ils sont en train ils sont condamnés par rapport aux lois qui a été votée par le peuple tunisien ou bien par l'Assemblée nationale. On réfère toujours au texte de loi. Quand le texte de loi dit ceci, cela, là, on ne devrait pas, faire autre chose que ça. Ce n'est pas du tout normal de protester contre cela. Même ici, en Guinée, il y a de ces familles, il y a des musulmans qui n'est pas en bonne santé, qui ne peuvent pas gêner, mais ce n'est pas du tout permis de manger en public. C'est quelque chose d'inacceptable, parce que voir un père de famille qui ne peut pas gêner, il prend son plat et venir devant la porte, s'asseoir devant les enfants qui sont en train de manger là, ce n'est pas du tout normal. Hein. L'islam l'interdit aussi. Dans nos traditions africaines, les enfants, les jeunes se réfèrent aux sages. C'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout accepter cela.
Diallo. On va écouter Tidiane qui est au Cameroun pour savoir comment ça se passe chez eux. Tidiane, vous nous entendez? Bonsoir.
Oui, bonsoir à vous et surtout bonsoir à Tcherno, mon frère de Conakry.
Je vous écoute.
Oui, je partage mon avis avec Tcherno, et malgré que je vis au Cameroun, là où je veux dire que la majorité gouverne, parce que c'est un pays quand même, le Cameroun, même si physiquement c'est un pays laïque, mais en tout cas ce sont les chrétiens qui dominent. Par exemple ici à Douala, donc voilà... Les gens mangent un peu partout, malgré que nous gênons. Mais quand même, ça me gêne un peu. Par exemple, hier, il y avait vraiment extrêmement de soleil. Donc, dès que je voyais les gens vraiment boire de l'hydraté, ça influençait, ça me gênait. Mais voilà, je pourrais rien quand même faire. Par exemple, en Guinée, c'est un pays musulman. Même si là-bas, vraiment, la loi n'interdit pas de manger publiquement, malgré que c'est un pays laïque. Malgré qu'il y a des chrétiens là-bas, mais même les chrétiens se cachent vraiment pour manger la journée.
Merci Tidiane de votre contribution. Tidiane, merci de votre contribution. On va avoir le point de vue de Kadiatou Traoré qui est déjà ici au studio. Kadiatou, bon après-midi.
Merci Eric, à toi aussi.
Et puis, bonsoir.
Bonsoir à Eric et bonsoir à tous nos auditeurs.
Je me rappelle de. Quelqu'un te faisait remarquer, c'était l'année passée, que tu portes le nom de l'une des femmes du prophète.
Oui.
Dans l'une de ces femmes avait ton nom.
Oui.
Je ne dis pas que c'est qui a son nom.
La première
c'est
femme.
C'est elle qui avait ton nom.
Non, c'est moi qui porte son nom. Disons plutôt que c'est moi qui porte son nom. Et mon nom, effectivement, Khadija, c'est Kadiatou ou Mali, ça, parce qu'il y a la langue maternelle qui influe là-dessus. L'historique de ce nom, c'est que la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Khadija. Et c'était une dame sage qui était plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a joué un grand rôle et occupé une grande place dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sa sagesse, avec tout ce qu'elle avait pour encadrer son mari. Elle fut mère, elle fut sa femme, tout ce que la femme pouvait prendre comme place dans la vie du prophète, Khadija fut.
Voilà. Nous sommes en plein Ramadan et vous avez suivi cette histoire de la Tunisie où les ONG ont porté plainte pour exiger le droit de manger en public. Et vous le savez, l'année dernière, ce qui s'est passé, il y a eu des arrestations. Mmh. Des gens qui avaient été arrêtés pour avoir mangé ou fumé en public. Il y a une circulaire qui date de 1981 en Tunisie qui ordonne aux cafés de fermer pendant le Ramadan. Vous êtes musulmane, vous avez suivi nos deux auditeurs tout à l'heure qui sont très tranchés dans leur point de vue. Ils disent qu'il est hors de question de manger pendant le Ramadan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous.
Les deux interlocuteurs qui ont parlé ont fait leur analyse selon le rite musulman et selon ce qui est dit par le Coran. Il est dit que pendant ce mois, abstenez-vous à manger. Et même si, parce que les femmes ne peuvent pas gêner, les jeunes femmes ne peuvent pas gêner tous les 30 jours du mois. Elles ont leur période de menstruation qu'on appelle, pendant laquelle la religion musulmane condamne de ne pas faire de rites, de prières ou quoi que ce soit, les rites, tu ne dois pas le faire parce que tu es supposé ne pas être pure à cette période. Et donc, les jeunes femmes qui sont dans cette période, on leur demande de ne pas se rendre en public pour manger devant les gens. Mais, il y a un grand mais. Le monde évolue. Et toutes les religions aussi évoluent avec le monde. Voilà. Il est aussi demandé par ces religions, les prophètes, les différents prophètes qui se sont succédés et qui viennent et qui ont toujours prôner la tolérance des différentes religions. Ce n'est pas la religion musulmane seulement. Ils ont toujours prôné ne faites pas trop. Quand c'est trop dur, c'est pas bien. Trouvez toujours le juste milieu pour faire comprendre aux gens que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et au pire des cas, et si vous vous trouvez dans une situation où vraiment ça peut pas marcher, il faudrait vraiment trancher. La Tunisie est une république musulmane. Mais je ne sais pas, je ne connais pas jusqu'à islamique. Je ne sais pas, je ne connais pas le degré de leur laïcité.
Laïcité, oui.
Laïcité. Et je ne sais pas pourquoi les ONG se plaignent et portent devant les tribunaux. Et si c'est le cas, moi je me dis que peut-être que quelque part, dans leur analyse, ils auront raison.
Oui, parce qu'ils parlent de la liberté de conscience et de religion.
Voilà. Et donc, ça veut dire que un État islamique qui a une certaine tolérance ou un certain niveau de laïcité qui leur permet d'aller au-delà de ces considérations. Bon. C'est bien, c'est pas bon. Nous ne sommes pas sur ça. On est en train de chercher comment faire évoluer cette... Surtout que la religion musulmane, de plus en plus, ces 10 dernières années, avec la montée de l'extrémisme et tout ça, il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion dans la tête de la jeune génération par rapport à ça. Il y a trop de confusion dans toutes les choses. Moi, je pense que les leaders religieux devraient faire en sorte que... faire des hadiths aussi ou même prendre le pas pour sensibiliser et voir comment et quel peut être le niveau, le degré de leur responsabilité par rapport à, tu vois, à la sensibilisation.
Parce qu'il y a aussi cette question de liberté où on peut décider de ne pas gêner. C'est une décision individuelle.
C'est une décision, ça peut être individuel comme ça ne pourrait pas être, selon ce qu'on nous explique. Moi, j'ai pas étudié le Coran.
Pourquoi être prisonnier du Coran, par exemple, ou de la charia?
Je sais pas, tu vois, c'est des questions qui sont assez sensibles et difficiles un peu à expliquer. Moi, je vais te dire quelque chose, Eric. Je peux faire une très bonne analyse là-dedans. Les gens nous écoutent. Je suis musulmane, pratiquante. Je suis une femme. Et même là...
Et en plus, vous portez le nom de la...
Non, pas ça. C'est que ce que je veux dire, que quelque part là, il y a des endroits où mon statut ne me permet pas de même discuter de ça. Il faut me demander pourquoi. Il faut me demander pourquoi. Parce que tu sais, dans cette religion, pour ce qu'on nous a appris, même si, tu vois, en apprenant la Coran, pardon, le Coran,
ouais.
On partait dans des endroits où on apprenait. Nos parents nous ont envoyés dans des médersas ou dans des endroits où il y avait le maître coranique entouré par les... Tu vois, quand on ne part pas à l'école française, pendant cette période-là, on partait faire la lecture du Coran. Mais l'apprentissage, Eric, c'était... On récitait seulement. On ne nous apprenait pas à écrire et puis à comprendre. Parce, puisque tout ça là, se passe en arabe et que le livre saint aussi est venu en arabe et que nous, l'arabe n'est pas la langue, notre langue maternelle, langue. Ça complique les choses. Et quand tu poses des questions, quand tu posais des questions, et si ils étaient embarrassés, paf, on te dit de ne pas poser des questions comme ça.
Ce n'est pas comme la Bible où elle est traduite dans toutes les langues.
Ils ont commencé à le faire, mais c'est tout à fait...
Ce n'est pas très...
Elle est traduite dans toutes les langues, mais tu n'es pas, on n'a pas l'autorité de prier
dans ta langue, maternelle.
Dans sa langue maternelle. Il faut le faire avec l'arabe.
On me signale qu'il y a d'autres auditeurs en ligne. Steve Boko, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, pour moi, j'ai quelques questions à poser à votre invité. La première question, j'aimerais savoir la décision qui est prise. Est-ce de la part des autorités tunisiennes? La deuxième question, elle vient de dire que le monde évolue. Votre invité, bien sûr. Et le monde évolue, que les religions aussi évoluent avec le monde. J'aimerais savoir si c'est les hommes eux-mêmes qui ont introduit cette décision. C'est-à-dire les musulmans eux-mêmes qui ont introduit cette décision à pouvoir manger lors de Ramadan. Ce sont ces questionnaires que j'aimerais qu'elle me réponde. Et moi, Steve, qui suis là, je suis chrétien. Ce que je sais de moi, dès que vous êtes en jeûne, vous êtes abstenu à ne pas manger jusqu'au coucher du soleil. Mais nous constatons où on vient de nous dire que ce pays, la Tunisie, vient d'adopter une nouvelle loi où c'est-à-dire les musulmans doivent manger en public. Moi, ça me semble un peu aberrant. J'aimerais qu'elle m'explique un peu à ce niveau.
Steve. Steve.
Oui, je disais.
Je dois rectifier. Il n'y a pas eu une loi pour autoriser à manger en public. C'est plutôt un collectif d'associations qui demande le respect du droit de. Le respect de la liberté de religion et de conscience et protéger ceux qui veulent manger en public ou fumer en public.
Ah, d'accord, mais vous savez, Tunisie, c'est un pays islamique. Donc, moi, je pense très bien que c'est ça, les autorités doivent servir. Ils doivent servir un peu à ce niveau et sanctionner ces personnels. Parce que nous ne pouvons tolérer certaines choses comme ça. Parce que nous sommes dans le mois du Ramadan.
On va prendre 30 secondes pour avoir des éléments de réponse à tes questions, Kadiatou.
Je vais réagir un peu au propos de monsieur Steve. Vous l'avez expliqué, effectivement, c'est ça. Et dans la constitution tunisienne, dans l'article 6, il est mentionné quelque part que la constitution, l'article 6 de la constitution portant sur la liberté de conscience. Et quand on dit liberté de conscience et de religion déjà, il y a un débat qui s'ouvre. On peut l'interpréter comme on peut. Et tu vois,
parce
c'est vague,
la liberté,
c'est grand.
C'est de choisir ce que toi tu veux.
Absolument, comme... absolument. Donc, quand même là, moi, en tant que musulmane, si je lis ça, ça me donne d'autres idées. Ça m'amène d'autres idées de penser. Tu vois, donc, il y a un paradoxe. Si tu vois que ces ONG ont porté plainte, peut-être qu'ils savent quelque part que ils peuvent ouvrir un débat sur ça. Et il faut aussi donner des détails sur liberté de manger en public. Beaucoup plus de détails.
Justement, il y a une députée qui avait posé cette question au ministre de l'Intérieur. Et le ministre, par exemple, n'avait pas de réponse précise à donner. Ils avaient fermé des cafés et le ministre avait justifié la fermeture des cafés par le risque de choquer les jeunes.
Voilà, c'est tout.
Nous avons notre auditeur en ligne, c'est Diara, qui a Sony Kenny. Bonsoir.
Dans mon village natal. Ouais, bonsoir, Eric. Bonsoir, Kandiatou.
Oui, Diara, Abedi.
Oui, comment? Oui, ça va. Anissou.
Anissé, Anubara.
Aba, Anissou.
Diara.
Oui.
Je vous écoute. Oui, Eric. Je vous écoute.
Ok, ok, ok. Merci de me donner la parole, Eric. À mon avis, je pense que vraiment, c'est que les autorités tunisiennes ont fait vraiment, je suis parfaitement d'accord. Il faut imaginer que vraiment, 7 mois, c'est au moins 30 jours seulement. Donc, je demande pardon à tous les musulmans, même ceux qui n'ont pas musulmans, ils doivent respecter 7 mois. Donc, il faut imaginer que vraiment, si, même si tu n'es pas mais carrément, donc, de manger dans les lieux publics, je pense que vraiment, c'est pas bon. Donc, ce que toi-même tu as dit, l'an passé, il y a d'autres personnes, elles ont été fermées par rapport à ça. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, tout le monde doit respecter 7 mois pour que nous, on doit faire du bien. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, je félicite toujours les autorités tunisiennes, à mon avis, Eric.
Merci Diara pour votre intervention. Il y a Mahamadou Traoré qui dit « Le jeûne n'est obligatoire qu'à un musulman, ainsi les non-musulmans ne doivent pas être privés de leur droit de manger ou de fumer en public. » Nous avons à notre auditeur en ligne, c'est Brahima Doumbia, bonsoir. Brahima, quel est votre point de vue?
S'il y a trop de vertus quand même dans le monde musulman, je pense que cela quand même pourrait nuire à l'islam en quelque sorte. Je ne suis pas d'accord avec l'avis des associations qui vont porter plainte de mon point de vue. Je pense que en ce mois de carême, surtout dans un pays musulman tel que la Tunisie, il faudra quand même faire en sorte que ceux qui jeûnent puissent bénéficier quand même de tous leurs droits en quelque sorte. Si vous voulez manger, vous pouvez quand même. On ne vous oblige pas à être coincé dans votre maison, mais de faire en sorte que ceux qui jeûnent quand même ne soient pas gênés en quelque sorte de mon point de vue. Je pense que dans toute religion, il faut quand même se baser sur les fondements, le béaba, les autres. Même en mathématiques, on est obligé quand même d'accepter les x au carré, les a plus b. C'est comme ça aussi en islam. Il y a des obligations, il faut accepter. Et quand on accepte cela, il faut quand même, en considérant ce thème, je pense qu'il faut quand même laisser les musulmans gêner et bénéficier quand même, comme l'a bien dit, de tous ces droits, surtout dans un pays tel que la Tunisie, un pays musulman.
Merci, Brahima, pour votre contribution. Il y a un auditeur qui dit « Le jeûne de Ramadan fait partie des piliers de l'islam et revendiquer un droit à manger pendant cette période est très grave. C'est un manque d'égard envers Allah, le miséricordieux. » C'est Mephis qui le dit. Mamadou Alpha, il dit « L'islam est une religion de juste milieu qui a des principes fondamentaux qui sont stricto déçus, qui s'appliquent à tous les musulmans. » La Tunisie est un pays musulman, donc tous les musulmans doivent jeûner. Ces ONG n'ont pas leur place dans le monde musulman. C'est le point de vue de Mamadou Alpha. Kadiatou, le temps presse. Est-ce que ça vaut vraiment la prison?
Ça, c'est une question aussi. C'est une question à débattre. Ça dépend des lois, les bases et les fondements de leurs lois laïques et islamiques qu'ils ont là-bas dans leur pays. Et ça, moi, je pense que la Tunisie est en train d'aller sur une ouverture de débat dans le monde musulman. Ils veulent vraiment une grande révolution dans le monde musulman. Et sinon, quand nous
si en référons... Si on ferme les cafés, etc., tout ça, on bloque aussi l'économie.
C'est pour cela que je dis qu'ils sont en train d'aller vers un vrai débat. Ils veulent amener, tu vois, un vrai débat dans la religion musulmane. Parce que quand ça va commencer en Tunisie, ça va aller ailleurs. Tu vois ce que je dis? En Arabie Saoudite, maintenant, tu as vu, c'est toute une révolution. Nous assistons à toute une révolution et en face de cette
c'est
la
le monde
religion.
Qui évolue comme
voilà, le monde évolue et les hommes évoluent avec et on réfléchit et puis on remodule encore les lois.
On revoit cela. Merci voilà. Kadiatou pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Eric Manirakis a été avec vous. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Je vous retrouve à la prochaine. À très bientôt.